Bonsoir, le M51 a été tiré vers 9h45, 9h52 ce matin, si on en croit les communiqués, alors que les militants pacifistes nous annonçaient 5 minutes avant que plusieurs équipes avaient pénétré sur le site du CELM. Les Norlandais vibraient sous le tir de la capsule, car ce sont plusieurs personnes, une vingtaine, qui auraient bravé l'interdiction des autorités ce matin, des inspecteurs citoyens, comme les appelle Xavier Renoux, l'ex-chargé du désarmement nucléaire à Greenpeace France. Il pensait alors que le tir ne pourrait plus avoir lieu, envoyant des communiqués à la presse nationale et internationale. Greenpeace ne signe pas cette action et les responsables parlent plutôt de militants pacifistes, certes très proches du mouvement et déçus de ne pas avoir visité le site en septembre lors de la grande manifestation du collectif. Édition spéciale ce soir, ce jour, avec messieurs Renoux et François Côté, directeur du CELM. Xavier Renoux, bonjour, bonsoir plus exactement. Peut-on parler d'échec ou de réussite concernant votre action? Vous précisez avoir décalé avec vos équipes les tirs, le tir du M51.
Alors c'est déjà ce que des centaines de témoins ont pu constater. Le tir était prévu pour 9h30, les personnels du CEL avaient été informés, enfin pas tous les personnels, mais une partie des personnels avaient été informés de cet horaire. C'est comme ça évidemment que nous l'avions su, hein. C'est parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas correct de participer à la préparation de crimes contre le droit international et que ces gens-là nous parlent. Donc nous savions l'horaire, les choses étaient prêtes pour 9h30, sauf que à partir de 8h le matin, nous avons effectivement procédé à une inspection citoyenne, toujours faute de permission de la part du CEL de nous laisser procéder à une inspection citoyenne à la manière des agents de l'ONU. Nous pourrions aussi passer par la porte. On nous en empêche. On se souvient du 23 septembre dont cette antenne avait beaucoup parlé. Eh bien, donc, nous sommes passés par la porte de derrière. Et pendant plusieurs heures ce matin, des inspecteurs ont procédé à une inspection. Et certains, ils sont encore sur le site en train de le faire, je l'affirme. Les autorités du site ont été prévenues de l'ordre de 40 minutes avant les 9h30 date du tir. Elles étaient par conséquent conscientes qu'il y avait des gens, des civils, sur un terrain non seulement militaire mais devenu dangereux du fait de la perspective des tirs. Tirer une fusée qui va aller à 10 000 km en passant par l'espace, c'est pas anodin, c'est beaucoup d'énergie, de puissance, et donc c'est une sorte de bombe qui part si l'essai rate, et un essai veut bien dire que la réussite n'est pas garantie. Néanmoins, les autorités de la base ont choisi effectivement de nier notre intrusion dans les médias et de procéder à un tir qui mettait la vie de nos inspecteurs citoyens en danger.
De par l'immensité, Xavier Renoux, on va dire, de ce site, le site du CELM, est-ce qu'il y a des zones, on va dire, franches ou des zones moins franches pour opérer sur ce tir? C'est ce que peut répondre peut-être le CELM, que vous n'étiez pas dans une zone dite dangereuse de par le tir.
Nous étions dans des zones, et le compagnon, là, sans doute, en témoignera, nous étions dans des zones où nous n'avons vu personne. Or, le CEL est quand même peuplé de travailleurs. Il y a près de 800 personnes au moins qui travaillent dans le CEL en permanence. Il n'est que au moment des tirs de missiles que des zones entières sont évacuées de leur personnel. Et d'ailleurs, une partie des personnels était sur la plage pour assister aux tirs ce matin. Et pourquoi on évacue ces zones? Justement parce qu'il y a danger. Il faut dire que ce tir de missile, et vos auditeurs le savent très bien, on les entend jusqu'à 15 kilomètres. Les murs tremblent. Je crois que les habitants de la proximité avaient été informés que si leur vitre était cassée à l'occasion de ce tir, eh bien, il y aurait dédommagement. Nos inspecteurs ont senti clairement le souffle du tir. Et il y avait donc danger. Nous avons donc été dans des zones qui étaient dangereuses. C'est tout ce que je peux vous dire.
Une vingtaine, c'est bien ça?
Une vingtaine divisée en plusieurs équipes et dont certaines équipes sont encore là-bas. D'autres sont sorties. Celles qui sont à l'intérieur, on n'a pas d'informations quant à leur sort. On ne sait pas si elles sont arrêtées ou si elles continuent l'inspection comme de bon leur semble pour ramasser les preuves de la perpétuation du crime et aussi nous permettre d'accéder à une information qui nous permettra d'agir pour le prochain tir, puisque c'est évidemment le premier tir d'une série de 3 tirs majeurs, et nous comptons faire mieux la prochaine fois. Effectivement,
vous affirmez ici à ce micro qu'il y aura pérennité dans vos actions.
Évidemment, évidemment. Et vous me posiez, je ne vous ai pas répondu à la question de l'échec. Alors oui, c'est un échec parce que nous n'avons pas empêché le tir. Certes, nous avons pu obtenir, je le confirme, le décalage du tir de 22 minutes exactement. Alors, reconnaissons-le, c'est modeste. Néanmoins, nous avons perturbé le fonctionnement normal du centre et montré qu'il était possible de le faire, que les autorités en face étaient doublement irresponsables, irresponsables en regard du droit international et des actuelles tensions. On critique l'Iran qu'on accuse de provocation quand elle teste des missiles, et puis la France fait ses essais de missiles à peine une semaine après ceux de l'Iran. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu qui consiste à jeter de l'huile sur le feu? La deuxième irresponsabilité, c'est vis-à-vis de nos inspecteurs citoyens. On procède quand même au tir, alors qu'on sait qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont en train d'inspecter un site certes immense, mais néanmoins important et dangereux pour ces inspecteurs.
Vos informations étaient fiables quant à l'horaire du tir pour affirmer aujourd'hui qu'il y avait 22 minutes de retard provoqué par la présence de vos inspecteurs citoyens. Quelles sont vos sources?
Si, je vais vous répondre, je ne vais pas vous donner les noms, mais c'est évidemment des gens qui travaillent au CEL, c'est tout simple. C'est pas seulement eux, on a aussi des gens qui travaillent à la SNECMA et à EADS, dont les personnels étaient également, enfin une partie des personnels, je crois qu'il y avait une centaine de personnes de ces deux entreprises présents sur la plage aux côtés des salariés du CEL. Nous avons aussi des amis là-dedans, parce que ce sont des gens qui ont accepté un travail et à un moment ils en cherchaient, parce qu'on est dans une région dont on le sait, le poids économique des militaires est considérable. Néanmoins, ces gens n'aiment pas forcément ce qu'on leur fait faire ou tout ce qu'on leur fait faire.
Vous avez conscience que vous les mettez en cause, du moins vous les mettez dans une position délicate de par vos propos?
Je ne pense pas qu'en disant que des gens à l'intérieur nous informent, on leur fera prendre de bien grands risques, parce que je crois que l'autorité militaire sait qu'elle ne maîtrise pas complètement toutes ses troupes. Fort heureusement, la diversité culturelle, humaine, fait que on trouve toutes les sensibilités aussi au CEL, aussi à la SNECMA et à EADS, et là-dedans il y a des gens qui informent le canard enchaîné et parfois telle ou telle association ou tel mouvement pacifiste.
Vous n'êtes pas venu seul, à vos côtés Jean-Michel, inspecteur citoyen. Jean-Michel, vous étiez, vous, sur le terrain, dans l'enceinte du CELM. C'est la deuxième fois que vous pénétrez dans cette enceinte après le 23 septembre. Vous étiez de la campagne du 23?
Non, le 23 septembre, j'ai juste participé à la manifestation pacifique, mais on nous a pas laissé rentrer, et donc il faut monter la pression, et donc cette fois on est rentré de la façon dont on pouvait, c'est-à-dire un peu en cachette, il faut bien avouer. Et on a pu constater qu'un missile avait bien été lancé par l'armée française.
Vous connaissiez les risques que vous encouriez en pénétrant dans cette enceinte militaire, que vous encourez toujours d'ailleurs?
Oui, le risque d'éviter une apocalypse.
En termes d'amende, en termes d'emprisonnement également?
Si, oui, j'ai choisi le moindre mal.
Qu'est-ce qui vous fait participer à ce genre d'action? Qu'est-ce qui fait que Jean-Michel aujourd'hui participe à ce genre d'action?
Peut-être la culpabilité de me dire j'aurais rien fait si jamais le pire devait arriver. Dire que moi aussi j'aurais rien fait. Et je crois que chacun doit agir à son propre niveau. Chacun fait avec ses moyens. Alors moi, je suis rentré dans une base militaire. Oui, c'est vrai, c'est pas bien. J'ai essayé de faire bouger les choses.
Antinucléaire depuis combien de temps?
Je crois que c'est le Rainbow Warrior, l'histoire du Rainbow Warrior de Greenpeace où j'ai vu l'État français qui allait poser des bombes, de tuer des gens, et des gens qui essayaient juste d'arrêter l'arme nucléaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est qu'Hiroshima, si quelqu'un a vu un peu les images. Ouais, en fait, c'est l'État français qui m'a motivé par sa façon d'agir invraisemblable, qui m'a fait prendre conscience que les gens que je voyais comme les pacifistes à l'époque... ils avaient besoin d'un coup de main.
Dernière question, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez pénétré dans cette enceinte? Vous vous êtes installé à un endroit, vous vous êtes promené, vous saviez les dangers que vous encouriez?
Honnêtement, j'imaginais pas qu'ils puissent procéder au tir. Enfin, le fait qu'on était dans la zone, j'imaginais que ça allait les arrêter. Ils ont pris un risque. Ça s'est bien passé, très bien.
Vous n'avez rencontré personne ?
Absolument personne. Mais le risque, c'était, en cas de problème, il y a eu des explosions sur des pas de tir. Quand c'est tout le carburant qui pète sur place, c'est une belle explosion. Et là, le M51, il est deux fois plus gros, je crois, que le M45 en volume de carburant. Ça fait une belle boule de fumée, quoi. Faut pas être trop à côté.
Jean-Michel est originaire de la région ?
Non, je suis parisien.
Et vous avez fait le déplacement pour pénétrer dans cette enceinte, spécialement aujourd'hui, on va dire ?
Oui, j'ai pris des congés pour l'occasion. J'ai vécu un petit peu à Bayonne et donc j'ai des affinités dans la région aussi.
Xavier Renoux, pour clore cette première partie d'entretien, vous avez précisé, vous avez tenu à préciser que vous étiez ex-Greenpeace. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce à dire que vous ne faites plus partie de Greenpeace et pourquoi ?
Alors, je ne fais plus partie de Greenpeace au jour d'aujourd'hui parce que j'étais salarié de Greenpeace en charge de la campagne pour le désarmement nucléaire et que cette campagne avait été relancée pour 2 ans à titre expérimental. Une évaluation devait être menée. Ces 2 ans ont pris fin en octobre dernier. L'évaluation vient d'avoir lieu. Enfin, elle avait commencé bien avant la fin, évidemment, de ces 2 ans. Je peux vous informer, c'est assez nouveau, que Greenpeace a décidé de reconduire cette campagne, non plus pour 2 ans, mais pour 10 ans. Donc c'est une très bonne nouvelle, je crois, pour le monde, parce que peu d'organisations de cette importance s'engagent sur cette question, sur une question aussi cruciale. Néanmoins, dans cet intervalle qui entre la fin de mon contrat et l'éventuelle recréation d'un poste, enfin la probable recréation d'un poste au bureau français, eh bien, je suis un simple citoyen sans emploi et militant de la paix. Toujours proche de Greenpeace, évidemment, mais nous n'étions pas tous proches de Greenpeace. Un certain nombre l'étaient, évidemment, et puis d'autres le sont, des faucheurs volontaires, d'autres. Nous étions avant tout un ensemble de citoyens.
Greenpeace ne revendique pas votre action.
Non, du tout. Nous n'avons pas sollicité, à dire la vérité, les organisations membres de la coalition, vous savez, qui avaient organisé et porté. J'en étais évidemment un des acteurs importants, l'événement de Biscarrosse des 22-24 septembre dernier. Parce que là, ça s'est fait un petit peu vite. Hein, évidemment, l'information qui était juste, nous ne l'avons pas eue il y a un mois. Et donc, nous avons estimé que à quelques-uns, on était en mesure de faire quelque chose d'intéressant et on y est allé. Alors, le réseau Sortir Nucléaire avait été mis au courant, il est apparu dans la presse, je peux le dire. Quelques autres associations, évidemment, avaient été mises au courant. Mais nous ne les avons pas franchement sollicités, non.
Jean-Michel, et nous terminerons là-dessus. Je présume que l'enquête sera opérée dans les heures qui suivent pour savoir qui a pénétré dans cette enceinte militaire. Est-ce que vous êtes prêt à vous livrer, on va dire, à lever le bras, à dire je suis coupable, comme le font les faucheurs volontaires, si ça venait à se produire ?
Tout à fait. Il faut bien assumer ses actions. Je n'ai pas l'intention de me cacher. Je suis plutôt fier de ce que j'ai fait.
Messieurs, merci. Dans quelques instants, nous recevrons François Côté, le directeur des CELM, qui lui aussi, à son tour, répondra à nos questions et nous dira si le tir du M51, d'après lui, a été une réussite et de quelle manière a-t-il vécu, on va dire, la situation avec des manifestants pacifistes qui ont pénétré dans l'enceinte du CELM.
Le vaccin contre la grippe est le seul moyen de se protéger. Ainsi, dès 65 ans et lorsqu'on souffre de certaines maladies chroniques, il faut y penser. L'assurance maladie vous propose plus d'informations sur cette antenne dans la chronique « La grippe, le plus simple, c'est de se faire vacciner » et sur le site www.vaccinationgrippe.fr.
Fréquence Info, retour sur l'actualité, Hervé Delrieux.
Deuxième volet de notre édition spéciale avec François Côté, que je remercie également, directeur des CELM, de participer à ce direct ici, studio Diantel, sur ce journal de 18h. Le M51, monsieur le directeur, a été tiré ce matin, et ce, malgré la présence, comme l'a dit Xavier Renoux, de militants pacifistes. C'était prévu.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais confirmer le tir qui a eu lieu ce matin du M51, c'était le premier vol expérimental de ce missile. Donc, il était dans une configuration spécifique, c'est-à-dire que bien évidemment, il n'y avait pas d'armes nucléaires à bord. et nous avions pris des dispositions spécifiques de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il y avait tout un dispositif de sauvegarde adapté au caractère expérimental du vol, et puis bien sûr un dispositif important de mesure. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que c'était un tir extrêmement complexe. Par l'ampleur du dispositif qu'il mettait en jeu, c'est un tir qui s'étendait sur plusieurs milliers de kilomètres, qui faisait intervenir tous les moyens de trajectographie du centre, en particulier nos 15 radars, qui faisaient intervenir le bâtiment d'essai et de mesure Monge, qui était positionné assez loin dans l'Atlantique, et qui faisaient intervenir des moyens conséquents des armées pour la protection des zones maritimes, en particulier les moyens de reconnaissance maritime. Je crois que pour situer le tir, c'est on est sur un tir d'une fusée à plusieurs étages, donc c'est un peu comme ce qui peut se faire pour les fusées Ariane à Kourou. Là il s'agit d'une fusée à trois étages, à propulseur solide, je peux vous dire que l'ensemble a parfaitement fonctionné et que, à cause des excellentes conditions météorologiques, nous avons pu voir la séparation de tous les étages, et l'allumage de tous les étages.
Monsieur le directeur, lorsque vous opérez sur un tel tir, est-ce à dire que des moyens sont prévus de longue date pour que satellites, avions, etc. ne puissent pas être sur la trajectoire? Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je présume que c'est difficile au dernier moment de changer.
Tout à fait, c'est une condition essentielle de nos essais, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, condition essentielle que nous remplissons vis-à-vis des espaces aériens, puisque nous informons les agences chargées de la navigation aérienne des zones de danger et, ce faisant, elles aménagent les couloirs de trafic aérien. Il y a un espacement par rapport aux satellites, c'est une des raisons qui font qu'on calcule bien les heures possibles de décollage et les créneaux possibles dans lesquels les fenêtres de tir que l'on peut avoir. Sauvegarde maritime, c'est pour ça que j'ai signalé que nous avions des vedettes et des bateaux qui surveillaient certaines zones pour vérifier qu'il n'y avait personne dans les zones de retombée du premier étage, par exemple. Et sauvegarde terrestre est assurée par la définition d'un périmètre de sécurité sur le centre, et c'est pour ça que nous déclarons pour ce genre de tir l'ensemble du centre fermé.
Alors, qu'avez-vous à répondre à Xavier Renaud, que vous venez d'entendre, qui dit qu'il y a eu décalage de tir? Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, décalage de ce tir? Et est-ce que vous avez eu connaissance, on va dire, de la présence de ces hommes sur le terrain, ou est-ce qu'il y a eu bluff?
Alors, pour ce qui concerne le tir, je souligne que ce tir a eu lieu sur le premier créneau prévu. Nous avions le créneau, nous l'avons ouvert aujourd'hui, c'était le premier créneau prévu. Nous avions d'autres créneaux de rattrapage derrière en cas de problème météorologique ou d'autres aléas propres aux essais. L'ouverture du créneau était effectivement à 9h30 locale, mais ce qui ne signifie pas, pour une personne qui connaît les essais, que le tir est effectué à 9h30 locale. Il y a, lors du processus de compte à rebours avant le tir, un certain nombre de points de vérification techniques, et en fonction des résultats de ces points de vérification et d'aléas mineurs qui peuvent se déclencher à ces points de vérification, il peut y avoir des décisions de suspendre le compte à rebours et de le reprendre un petit peu après. Donc ce que je vous dis, c'est que en aucun cas le report ou le décalage par rapport à la date d'ouverture du créneau que cite Monsieur Renaud, en aucun cas c'est dû à l'action de ses sympathisants.
Alors, est-ce que ces sympathisants ont été oui ou non arrêtés? Est-ce qu'ils ont pénétré déjà dans l'enceinte du CELM, et pourquoi n'ont-ils rencontré personne? On essaie de répondre à ce que précise Xavier Renaud dans la première partie de ce reportage.
Alors, d'abord, au sein du centre, nous n'avons pas reçu d'appel relatif à la présence de sympathisants dans les zones dangereuses, premièrement. Deuxièmement, nous avons effectué un certain nombre de reconnaissances et de patrouilles pour vérifier qu'il n'en restait personne. Et ensuite, nous avons évacué les zones pour bien entendu, l'ensemble du périmètre pour bien entendu exposer le moins de personnes possible et d'éloigner au maximum les personnels, en particulier hors du périmètre de sécurité du lieu de lancement du missile.
Alors, ce manifestant pacifiste que nous avons interviewé il y a quelques minutes témoigne, c'est un petit peu la voix du CELM contre la sienne, qui a raison ?
Je ne sais pas, moi ce que je peux vous dire c'est que dans nos reconnaissances, nous n'avons pas trouvé de personnes. Donc pour nous, les critères de sauvegarde terrestre étaient remplis.
Condamnable également l'action des pacifistes qui ont œuvré dans l'enceinte du CELM. On sait que pareille mésaventure, entre guillemets, était arrivée le 23 septembre dernier lors de la grande manifestation du collectif Greenpeace contre on va dire le nucléaire. Est-ce qu'il y a des représailles qui ont été prises contre les premiers qui ont quelque part rompu un petit peu cette loi ?
Je crois que quand on travaille dans un centre avec des activités intéressant la défense, comme le centre d'essai de lancement de missiles, on est soumis à un certain secret professionnel, un secret intéressant la défense. Donc,
ces personnes ont été quelque part poursuivies par la suite.
Alors, lorsqu'on enfreint ces règles de sécurité, on s'expose aux dispositions du code pénal. Je ne connais plus exactement l'article, mais le code pénal est très précis là-dessus.
Il y aura d'autres tirs, naturellement, du M51. C'est une campagne qui ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes, on va dire, de technologie ?
Alors, la partie essai en vol... du programme M51 est un peu le couronnement de la pyramide du programme et de son développement technique. Il faut bien voir que avant ces essais en vol, il y a tout un tas d'essais partiels. Il y a eu des essais de propulseurs près de Bordeaux, il y a eu des essais de chasse du missile hors du sous-marin en Méditerranée, il y a eu des essais en simulation partielle chez Astrium. Donc, les essais en vol, c'est le couronnement de toute une pyramide d'essais partiels et c'est l'intégration de tous les essais partiels. Ce qui en explique d'une part la complexité, ce qui explique d'autre part que, effectivement, il y aura d'autres essais avant d'aboutir à la qualification finale. Donc, c'est le premier vol, c'est pas le dernier concernant le M51.
La pérennité des actions qu'annonce Xavier Renoux, qu'il fasse oui ou non partie du Greenpeace, comme il le dit, est une donne qui est à prendre en considération, on va dire, quand on fait de tels essais. Est-ce que ça arrive dans d'autres centres que des pacifistes manifestent de la sorte, ou est-ce que c'est nouveau, on va dire, pour la DGA?
Je crois qu'en termes historiques, c'est effectivement nouveau. Je crois que d'autres centres, je ne connais pas les centres étrangers, s'ils sont soumis aux mêmes actions de la part des équipes pacifistes. Il y a quand même peu de centres qui font des essais de missiles balistiques, en particulier depuis le sol, puisque le dernier tir depuis le sol remonte quand même aux années 80. Ensuite, on passe à des essais qui sont faits depuis le sous-marin. Ça, c'est aussi l'évolution logique du programme de qualification. On commence par des tirs au sol et ensuite on poursuit par des tirs sur sous-marin. Les perturbations que nous avons connues le 23 septembre, extrêmement limitées, et celles qui sont annoncées aujourd'hui, c'est un fait. Et nous allons voir comment on va les prendre en considération dans l'amélioration de nos méthodes de sauvegarde.
Le M51, c'est combien d'années de travail, d'activité, on va dire, pour le personnel du CELM derrière? C'est quelque part la pérennité du centre?
Non, je peux pas. C'est pas la garantie de la pérennité du centre à lui tout seul. Je crois que le portefeuille d'activité du centre est extrêmement riche. Il se compose de volets sur la composante stratégique, et ça, c'est le M51, mais c'est aussi les missiles de la composante air-sol nucléaire, qu'il ne faut pas oublier. Ce sont tous les systèmes tactiques, et nous travaillons beaucoup également sur la famille Aster, par exemple, d'un système de défense anti-aérienne. Nous travaillons sur des armements air-sol, qui nous font beaucoup de charges actuellement également. Le troisième volet de l'activité du centre, c'est l'entraînement des forces, comme la campagne Nawaz qui a eu lieu en mars dernier.
Monsieur le directeur, merci d'avoir pris du temps sur votre emploi du temps qui aujourd'hui était particulièrement chargé. Merci de votre présence et de votre transparence.